prédication, c'est « Quand le ciel me tombe sur la tête et que j'ai rien fait au bon Dieu ». Quand le ciel... Alors, on explique ce titre, si vous voulez. Ben, il y a des fois, dans la vie des chrétiens, il nous arrive des événements, des situations qui sont extrêmement difficiles à gérer, qu'on ne comprend pas toujours. Hein. Et surtout, quand on estime qu'on n'a pas commis de péché grave, qu'on ne s'est pas écarté de Dieu, qu'on n'a pas assassiné notre voisin. Comment ça se fait? J'ai rencontré, il y a peu de temps, sur... la plage, en promenant mon chien, une dame vers laquelle je me suis approché, qui venait de perdre son fils, mais qui, quelques mois avant, avait perdu son mari, qui, il y a 2 ou 3 ans, avait une fille qui s'était défenestrée du 4e étage et qui avait perdu, il y a 10 ou 15 années, une fille dans un accident de voiture. Je me suis approché d'elle en lui demandant comment elle allait. Elle m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Vous savez, c'est pas facile. On a beau avoir un peu d'exercice pastoral dans ces situations-là, on est un peu court. Hein. On est un peu court parce que devant cette accumulation de situations difficiles, on dit, on va prier pour vous. Raccrochez-vous au Seigneur, c'est un peu compliqué. Alors, ce matin, qu'est-ce que ça veut dire quand le ciel me tombe sur la tête, quand j'ai rien fait au bon Dieu ? J'ai connu pendant une période de ma vie une succession de problèmes de santé graves, cancer, dialyse, greffe de rein qui n'a pas fonctionné au départ, etc. Et pendant ce temps-là, je me suis posé la question aussi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Alors, pour répondre à tout ça, on va s'appuyer sur un texte de l'Ancien Testament dans le livre des Chroniques, au chapitre 20, des versets 1 à 23, donc on ne prend pas le texte. Alors, qu'est-ce que ça peut être que le ciel nous tombe sur la tête ? Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de finances, ça peut être un problème de couple, ça peut être un problème de quoi encore ? De trahison, peut-être d'amis, de femmes, de conjoints qui nous ont trahis. En fait, toutes ces circonstances qui, dans la vie, sont difficiles à gérer. Et peut-être que ça parle à quelqu'un ce matin, peut-être que ça parle à quelqu'un, peut-être que quelqu'un se sent dans cette situation-là. Eh bien, par la grâce de Dieu, puis en nous appuyant sur la parole, je vais essayer d'apporter une petite réponse, un mode d'emploi, si vous voulez, auquel on peut toujours se référer lorsqu'on connaît ces situations-là. Peut-être que vous ne la connaissez pas aujourd'hui, peut-être que vous la connaîtrez dans quelques temps. Alors relisez ce texte du livre des Chroniques qui parle de Josaphat. Alors, je vais mettre de l'ordre ici, parce que si je mets autant de bazar que le pasteur local. Là, je suis sûr que c'est fini les invitations à Kevin. Hein. Alors, on va parler de Josaphat d'abord. Alors, ça, c'est l'humour de ma femme. Hein. Alors, je dis amen à tout ce qu'a dit, Jean-Marc d'elle. Hein. Je l'ai épousée il y a 54 ans. Elle était jeune à l'époque. Elle est toujours jeune. Hein. Et donc, c'est vrai que mon ministère ne serait pas ce qu'il a été si elle n'avait pas été là à côté. Et franchement, ça lui appartient, mais c'est une immense reconnaissance que je lui voue. Elle va me dire pourquoi tu as dit ça, etc. etc. Bon. Josaphat, pourquoi j'ai choisi ce roi ? Parce que c'est un grand roi de Juda. Vous savez que le schisme a eu lieu en 932 entre les 10 royaumes du nord et les royaumes du sud. Et les royaumes du sud ont été globalement plus fidèles à Dieu, encore qu'eux, mais ils ont été plus fidèles à Dieu que les royaumes du nord. Et c'est un grand roi. C'est parce qu'il est dit de lui au début, je vais lire le texte, vous voyez, « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de son père David et qu'il ne rechercha pas les Baals, le grand problème du peuple d'Israël et de Juda, c'était la prostitution spirituelle, bien entendu, avec des faux dieux, Baal et Astarté et tous les autres. Il rechercha au contraire le Dieu de son père et suivit ses commandements, contrairement à ce que faisait Israël. Et Israël, c'est à ce moment-là les 10 tribus du Nord. Il faut bien se mettre ça en tête. À partir de 932, ça y est, c'est le prof d'histoire qui ressort. Hein. À partir de 932, à la suite de la mort de Salomon et du règne de son fils Roboam, quand on parle d'Israël, on parle des 10 États du Nord. OK ? Voilà. Donc, et Ce qui est intéressant, c'est qu'un peu plus loin, dans le livre des Chroniques, il marcha dans la vie de son père Asa. Alors évidemment, David, ça veut dire son ancêtre. Son père Asa, il s'en écartant pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire que toute sa vie, Josaphat a été fidèle à Dieu. C'est pas de, il y a beaucoup de rois dont il est dit, il fut fidèle à l'Éternel, mais au bout d'un certain temps, il se détourna. L'exemple de Salomon, bien entendu. Mais il y en a bien d'autres dans les rois de Juda. Alors ici, on a vraiment quelqu'un de bien. Mais en même temps, si j'ai choisi ce Josaphat comme roi, c'est parce que Josaphat est un homme de la même nature que nous, comme disait Jacques Daly. Et son expérience, elle peut aujourd'hui aussi nous apporter énormément de choses dans notre vie spirituelle. Mais dans la vie de Josaphat, il y a eu quand même une petite faille. Une petite faille, c'est son alliance avec l'abominable Akab, ils sont contemporains, et sa femme, vous savez comment elle s'appelle, sa femme ? Jézabel. Et il nous est dit qu'il s'allia en plus militairement pour s'emparer de la ville de Ramoth en Galaad, mais il s'associa aussi par mariage, parce qu'il donna son fils Yoram comme époux à Athalie. Athalie, Racine, ça vous dit quelque chose, la tragédie de Racine. Et cette femme sanguinaire, avec l'hérédité qu'elle avait, c'est pas étonnant, a éliminé toute sa descendance, toute la descendance de, comment dirais-je, de Josaphat par la suite. Donc, un péché grave, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que Dieu a pardonné à Josaphat, et cela se manifeste par la parole du prophète Jéhu, fils du voyant Hanani, sorti au devant de lui, il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant ? Avais-tu besoin de t'allier à cet Akab ? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? À cause de cela, l'Éternel est indigné contre toi. Mais, il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as balayé du pays les poteaux d'Akéra et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. » C'est un homme qui a fait une bêtise dans sa vie, une bêtise grave, mais Dieu regarde au cœur. Vous êtes d'accord ici aujourd'hui, peut-être que l'un d'entre nous se trouve dans une situation de difficulté spirituelle. Ben, je crois que Dieu nous apporte la réponse parce que l'essentiel, c'est d'être fidèle à Dieu et de donner son cœur et de ne pas partager son cœur. Dans nos vies, peut-être que, tout à l'heure, Jean-Marc le rappelait, même si on aime le Seigneur de tout notre cœur, il y a des moments peut-être qu'on est moins bien spirituellement. Il y a des hauts et des bas dans nos vies. Celui qui dit qu'il est toujours au top spirituel, il est un menteur ou une menteuse. Mais en fait, je crois que ce qui est important, c'est que de garder ce regard tourné vers Dieu. Et là, si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas une relation directe entre ce qui est arrivé après et cet écart spirituel de la part de Josaphat. Mais il n'empêche qu'il va connaître de grosses difficultés. Alors j'ai intitulé ça « Une menace effroyable, doublée d'une trahison ». Imaginez un peu une association d'Helvètes et de Normands qui fondent sur Kevin. Toute relation à des personnes connues serait évidemment illusoire. Hein. C'est un danger réel, écoutez cela. Doublée d'une trahison, je vous l'expliquerai pourquoi. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, les descendants de Lot, donc des cousins germains, et avec eux, d'autres ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. » Alors il s'agit de la mer morte. « Depuis la Syrie, ils sont à Hatsatson Tamar, c'est-à-dire Engedi. » Le danger, il est réel. C'est une armée énorme qui s'avance vers Jérusalem. Donc on peut aller assimiler ça à toutes sortes de dangers qui peuvent assaillir nos vies à un moment donné. On n'est pas dans le même contexte historique, mais je pense qu'on a besoin de se dire que dans notre vie, on peut avoir tout ce type de catastrophes qui peuvent arriver. Et en plus, ici, on a une trahison. La trahison, on le retrouvera dans un autre texte, c'est parce que l'Éternel avait dit au peuple d'Israël, à ce moment-là, l'ensemble du peuple d'Israël, lorsqu'il a fait la conquête de la terre promise, d'épargner justement les Moabites et les Ammonites, en tant que cousin très, très, très éloigné du peuple d'Israël. Et là, malgré le fait qu'ils aient été protégés au départ, eh bien, ici, ils s'attaquent à, à Josaphat, ils s'attaquent à Jérusalem, et la menace, elle est précise, parce qu'ils sont à 20 km de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est la diapo suivante. Comment réagit Josaphat? Et je dis nous aussi, parce que ça nous concerne, j'insiste bien, il y a un décalage entre Josaphat et nous, mais nous pouvons être affrontés à des grosses difficultés. Comment est-ce qu'on fait? On décroche notre téléphone, on téléphone à notre copain, à notre copine, on appelle le pasteur, pourquoi pas? Mais la crainte, l'effroi, mais ce qui est important, c'est le conseil de l'Éternel. But God, dans l'église dans laquelle j'ai eu l'honneur d'être le pasteur pendant plus de 30 ans, j'avais prêché peut-être, vous savez, on ne sait plus très bien à mon âge, on aperçoit que mon âge a été parfaitement souligné par votre pasteur. Moi, je suis de la génération de la Dauphine, de la 4 chevaux, vous voyez à peu près où j'en suis. Hein. Les choses s'estompent un peu, je pense que ça fait 15-20 ans que j'avais prêché un dimanche sur But God. Quand le ciel te tombe sur la tête, je n'avais pas pris tout à fait le même thème, où ça revenait peut-être à ça, vous savez, finalement, quand on est vieux, on radote. Et j'avais dit, bon là, on se donne 15 secondes quand le ciel nous tombe sur la tête pour tourner nos pensées vers Dieu. Quand un matin, ou un jour plutôt, vous recevez un coup de téléphone d'un médecin qui vous dit, monsieur, vous avez un cancer, c'est ce qui m'est arrivé, vous dites, but God. On a 15 secondes pour paniquer. Et après, but God, ça veut dire s'accrocher à Dieu, s'accrocher à ses promesses. Oh, peut-être qu'à ce moment-là, on n'est pas capable de faire des grandes prières à Dieu, on n'est pas capable d'élever notre voix, mais on dit, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. But God, c'est ça. C'est-à-dire tout de suite chercher le contact avec Dieu. C'est bien parce que moi, je suis quelqu'un de très connecté. D'ailleurs, votre pasteur m'a envoyé une caricature du type du pasteur connecté qui est sur une muraille avec un porte-voix. C'est ça, non ? C'est une parabole. Ouais. Je pense qu'il a besoin de se repentir parce qu'il est méchant avec moi. Bon. C'est bien, on rigole bien quand même. Hein. L'essentiel, c'est qu'on avance et que la parole de Dieu soit annoncée. Alors, il éprouva de la crainte. Est-ce que c'est normal d'avoir de la crainte? Oui. Vous ne serez pas plus spirituel si on vous annonce que vous avez une maladie grave, que votre maison a brûlé, si vous dites « j'ai pas de crainte » ou « je suis, c'est normal, c'est banal ». Il a éprouvé de la crainte, c'est normal. On a peur, on est des hommes de chair et de sang, d'esprit aussi. Mais qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide tout de suite de consulter l'Éternel. Ah! Vous savez, quand vous décidez de consulter l'Éternel, vous avez déjà fait 50% du chemin. Vous êtes d'accord avec moi? Et deuxième décision, il décide de louer, je loue le Seigneur. Alors, louer le Seigneur, dans nos milieux évangéliques, c'est le temps de louange qu'on a avant le culte. Mais quelquefois, dans nos temps de louange, on chante, mais on chante des prières. Quand je change mon cœur Seigneur, ce n'est pas forcément un moment de louange. La louange, c'est exalter la puissance de Dieu. C'est reconnaître qui il est, qu'il est tout puissant. Reconnaître comme dans l'Ancien Testament reviennent de façon permanente. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui nous a libérés de la servitude de la maison d'Égypte. Tu es celui qui a ouvert la mer Rouge devant nous. Tu as fait des grandes choses dans notre vie. Alors voilà ce qu'il dit, Dieu est plus puissant. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Ça veut dire que mes problèmes sont sous contrôle. C'est toi qui contrôles nos problèmes. Nous verrons tout à l'heure que nous avons notre part à faire, mais c'est toi qui contrôles. Notre confiance est en toi. N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. Waouh! C'est peut-être pas facile de le faire dans des moments qui sont où on est peut-être dans la terreur, dans l'effroi. Mais je pense que ça fait partie d'une décision volontaire de se dire voilà. Et peut-être avoir un texte de référence qui peut être un texte dans lequel on peut se réfugier le jour où ça ne va pas bien pour une raison ou pour une autre. Moi, j'ai un psaume favori, c'est le psaume 34. C'est le psaume 34 qui répond à toutes nos interrogations, qui nous promet la présence de Dieu, l'assistance de Dieu dans toutes les circonstances. Et puis, deuxièmement, je crois que la dernière fois que je suis venu ici, j'avais prêché sur compte des bienfaits de Dieu. N'oublie pas ce que Dieu a fait dans ta vie. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à ta naissance d'Abraham qui t'aimait ? Tu as promis de nous donner ce texte, ce pays, tu nous le donnes, et on va le conserver. Et chacun de nous a fait des expériences avec Dieu. Il a connu, Dieu s'est manifesté dans notre vie. Peut-être que quelqu'un ce matin a été appelé à servir, à répondre à l'appel de Dieu. Magnifique interpellation. Mais je me dis qu'il va commencer, cette personne-là va commencer à engranger des manifestations de l'amour de Dieu pour lui, des situations qui vont se gérer. Et est-ce qu'on n'est pas... Alors, après quelques années de conversion, quand on fait le tour de toutes les situations que Dieu a réglées dans nos vies, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la finance, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau... plein de choses. On a besoin de s'en souvenir justement pour se rappeler que tous ces problèmes, Dieu les a réglés d'une façon ou d'une autre, quelquefois de façon tellement délicate qu'on ne s'en rend même pas compte. Vous êtes d'accord avec moi ? Quelquefois, combien, et moi le premier, combien de fois on n'a pas prié pour telle et telle situation, hein ? Et puis, on a oublié, et puis quelques temps plus tard, il ne se passe rien, vous ne vous rendez jamais compte de l'exaucement de Dieu. Et puis, quelques temps plus tard, vous vous dites, finalement, on a prié pour telle situation s'est arrangée, on a prié pour ce couple, il s'est réconcilié. Hier, j'ai eu étonnamment un coup de fil d'une paroissienne qui avait quitté mon église, je pense, il y a bien 15 ans. Elle était partie de façon un peu brutale, un peu désagréable. Et hier, elle m'appelle pour me dire, je te demande pardon. Wow, je me pardon, j'ai besoin de te revoir, ou de vous revoir plus exactement. Alors ça, je crois que c'est aussi, on a besoin justement d'être en permanence, de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie ? J'ai besoin que tu me le rappelles. Et en particulier dans ces moments où de désarroi, se rappeler que Dieu nous a sauvés de situations compliquées. Moi, si vous voulez, je vous ai parlé de ma santé, je vais bien aujourd'hui, hein. Je suis un jeune homme. Mais je peux vous dire que j'aurais dû être mort. Mais Dieu, il est là, il a sauvegardé ma santé, et il permet que même si je suis de la génération de la dauphine et de la quatre chevaux, de pouvoir partager ce texte avec vous ce matin. Alors, dans quelle situation je suis ? Alors, faire confiance à Dieu, ça n'exclut pas d'être conscient de la réalité dans laquelle nous sommes. Quelquefois, le danger des chrétiens, c'est de se dire, je prie Dieu, je mets ma tête sous l'oreiller et puis j'attends que ça se passe. J'ai toujours tendance à m'éloigner du micro, ça va à peu près ? Donc vous voyez, on peut toujours progresser. Donc je crois que c'est Dieu nous a donné, qu'est-ce qu'il nous a donné ? Il nous a donné un corps, une âme, un esprit, il nous a aussi donné une intelligence et une capacité à réfléchir. Moi, lorsque je suis devenu chrétien, j'ai perdu toute capacité à réfléchir. Alors, je peux vous dire que, je vais pas raconter, mais pendant un certain temps, j'avais perdu toute capacité de réflexion. Hein. À partir du moment où on me disait que quelqu'un était chrétien, forcément, c'était très bien, j'avais pas besoin, j'étais chef d'entreprise, si je recrutais quelqu'un qui était chrétien, ça devait être forcément le top du personnel. Oh. Ouf. Mais ça s'est avéré rarement vrai. Et pourquoi ? Parce que c'est moi qui avais une mauvaise attitude. Si vous voulez, c'est moi qui manquais peut-être de bon sens à ce moment-là. Dieu nous a donné une capacité à réfléchir. Devant une situation, devant telle ou telle situation, qu'est-ce que moi je peux faire ? Parce que la vie avec Dieu, c'est un partenariat. Dieu fait une partie, nous faisons l'autre partie. Quelquefois, Dieu fait 99,99%, et puis nous, très peu, et inversement. Alors, maintenant, revenons ici aux Ammonites. Voici que les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séir, vers lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, j'en ai parlé tout à l'heure, car il s'est écarté d'eux et ne les a pas détruits, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Il a fait ici l'état des lieux, en quelque sorte. Qu'est-ce que je dois faire dans ces circonstances-là? Si je perds mon travail, par exemple, parce que ça peut être un choc aussi, ça peut être le ciel qui nous tombe sur la tête, hein, qu'est-ce que je fais? J'attends que... Est-ce que ma part, quelle est-elle? Ma part, est-ce que c'est de rechercher du travail? C'est de, plutôt que d'attendre passivement, etc. etc. Mais... si je suis malade, peut-être que j'ai quelque chose à faire aussi, peut-être que j'ai besoin d'une activité physique, peut-être que j'ai besoin... Ça peut dépendre de tas de choses. Ça peut... J'ai besoin peut-être aussi de, eh ben, de m'auto-encourager et puis de m'encourager à la lecture de la parole de Dieu. On a toujours notre part à faire. La passivité n'est pas le lot du chrétien. La passivité, c'est pas le lot du chrétien. Le chrétien doit marcher main dans la main avec Dieu. Et ici, mais... Cette proclamation extraordinaire, sans toi, je ne peux rien faire. Waouh. L'autre risque est de se dire, ben voilà, j'ai un problème, je suis un grand garçon, je le gère tout seul. Vous voyez? Et c'est toujours cette nuance, quelle est la part de Dieu? Quelle est la part que je dois, du problème, de la question que je dois exercer? Sans toi, je ne peux rien. C'est une confession d'humilité, mais en fait une confession de dépendance. On a vraiment besoin de Dieu dans nos vies. On a besoin de Dieu assurer notre salut. J'aimais bien la prière de notre sœur tout à l'heure qui disait, vous avez un beau temps de prière, bravo, super. Franchement, on s'est fait du bien ici, on revient dimanche prochain. Disait, ben, merci Seigneur pour l'éternité. Merci parce que nous allons passer du temps avec toi dans l'éternité. Mais merci aussi parce que tu es avec nous au quotidien de nos vies. Alors, moi j'ai entendu un chrétien me dire l'éternité, je m'en fiche, ce qui m'intéresse c'est que Dieu intervienne dans ma vie. Ben, c'est des deux. Hein. L'éternité, moi j'ai quand même envie d'être près du Seigneur pour l'éternité, parce que c'est plus long que notre vie. Hein. Nous sommes que voyageurs sur cette terre. Mais en même temps, dans notre vie quotidienne, dans notre business, dans notre famille, Dieu doit être au centre de nos vies. Nous devons marcher avec lui et par conséquent toujours rechercher sa volonté. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons pas que faire. Quelquefois, c'est la marque de notre désarroi, on est sans force. Mais Seigneur, on ne sait pas que faire, mais nos yeux sont sur toi, c'est-à-dire que nous comptons sur toi. Et c'est ce leitmotiv de ce message que Dieu, nous avons à compter sur Dieu, nous avons à compter sur son intervention dans notre vie. Et puis, quelquefois, on ne voit pas, on peut demander au Seigneur simplement, montre-moi que même dans le silence, tu agis, Seigneur. Amen. Si on passe au texte suivant. Tiens, c'est étonnant. Dieu parle. Pourquoi c'est étonnant? C'est souvent. Un peu d'expérience pastorale, quand même. J'ai souvent entendu ça. Mais pas ici, sûrement pas. Dieu me parle pas. Dieu m'écoute pas. Et je pense qu'il y a un conseil ici qui est donné par Haziel qui dit soyez attentifs. Dieu ne nous parle peut-être pas de façon audible. Moi, je crois qu'il me l'a fait une fois dans ma vie. Mais c'était peut-être qu'il a parlé dans mon esprit, mais c'était tellement fort que j'ai eu le sentiment d'entendre la voix de Dieu, mais ce n'est pas son mode de communication le plus habituel. Peut-être que je ne suis pas assez spirituel pour entendre la voix de Dieu de façon audible tous les jours. Soyez attentifs. C'est-à-dire qu'on a besoin de regarder dans notre vie, de faire très attention à toutes les interventions possibles de Dieu. Dieu peut nous parler de quelle façon? Par une révélation de l'esprit. Vous êtes bien d'accord? Par une conviction puissante de sa parole, par un texte, par un réma. Moi, j'ai eu un réma l'autre jour, très clair, très très clair, à la lecture de la parole de Dieu. Je me posais des questions sur... Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais je me posais une question. Et en lisant ma Bible, le matin, je tombe, c'est une façon imagée, je tombe sur un verset qui répond exactement à la question que je me posais 10 minutes plus tôt. 10 minutes plus tôt, je me posais une question et c'était la réponse claire et nette de Dieu. J'aurais pu, si j'avais pas, peut-être que si j'avais pas interrogé Dieu avant, hein, peut-être qu'il ne m'aurait pas répondu de cette façon-là. Donc on a besoin de ces allers-retours avec Dieu, de ces « je t'interroge, Dieu, tu me réponds ». Et là, ça peut être aussi simplement un conseil d'un chrétien avisé. Et il faut, je dis bien avisé, d'un chrétien qui a de la maturité ou de la compétence. À une période de ma vie, j'étais jeune chrétien et je peux vous dire que j'ai été accablé de conseils catastrophiques venant de chrétiens de bonne volonté, remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour. Mais c'était des conseils en matière d'affaires, de business, et vous n'y comprenez rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a aussi besoin de choisir nos interlocuteurs en cela. Si vous êtes malade, si vous avez un frère médecin dans l'église, et vous lui demandez à lui qu'au plombier. Donc on a besoin de ce conseil là aussi, parce que Dieu parle aussi à travers les autres. Il peut parler également de façon prophétique, comme il a parlé ce matin. Mais soyons toujours attentifs à ce que dit Dieu, parce que Dieu parle. Et si vous vous dites « Dieu ne parle pas » ou « ne répond pas », c'est que je ne veux surtout pas vous charger, c'est peut-être que vous avez besoin de changer un peu votre attitude et votre position et d'ouvrir vos oreilles. Faire comme moi, à mon âge, d'acheter des appareils auditifs spécifiques, hein, pour entendre la voix de Dieu. J'ai bien aimé le texte qui était affiché ce matin, là, que ici on est dans une salle super connectée, hein, et que Dieu veut parler. Mais Dieu veut parler ici, mais il veut parler aussi chez vous. Hein. Chez vous, lorsque vous prenez vos petits déj, difficile le matin, hein, quand vous n'êtes pas très réveillé, mais Dieu peut vous parler. Là, toute référence à une personne connue serait là aussi illusoire. Je parlais évidemment de ma femme, parce que le matin, le petit déjeuner, c'est quelque chose de spécial. Vous savez, il faut vraiment qu'elle se réveille, et ça prend du temps. Et plus on vieillit, plus elle prend du temps. Bon, voilà. Ben oui, il faut dire. Il faut quand même qu'on soit authentique. Donc, est-ce que vous avez bien compris ça? Dieu nous parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu ne parle pas ici? Du tout, personne ne va oser lever la main. Mais si Dieu ne te parle pas, toi, mon frère, toi, ma sœur, ben, tu te dis, ben, je vais me mettre à l'écoute de Dieu. Je vais lui demander, Seigneur, parle-moi. Et vous verrez que vous aurez des réponses, peut-être de la façon la plus inattendue que vous pouvez imaginer. Amen. Dieu nous donne la paix et la sérénité. Vous savez combien de fois? Ainsi par l'Éternel, soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse. Est-ce que est-ce que le problème est que la la gravité du problème, ça a une importance pour Dieu? Rappelons-nous que si nous avons mal aux petits doigts, il est créateur du ciel et de la terre. Et que si nous avons peur de traverser une rivière à pied sec, il a ouvert la mer Rouge. Il a fait des choses. Il est créateur de ce monde. Il est tout puissant. Et j'aime bien ce verset. Moi, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors nous disons. Mais une chose quand même qu'il faut souligner, c'est que Dieu ne répond pas toujours de la façon dans laquelle on s'attend. Mais ses voix ne sont pas nos voix. Hein. Et je préfère marcher dans les voies de Dieu que dans mes voies un peu foirées. Ah oui, on ne dit pas ça dans une prédication. Hein. Ah non, ça c'est. Vous savez combien de fois il est écrit ne crains pas dans la Bible? Non, non. Erreur. 366. Parce que Dieu a prévu les années bissextiles. Dieu a prévu. Donc, mais. Alors, vous allez dire, le prédicateur, ouais, c'est bien, il est sur son estrade. Hein, et comment ça se passe lorsque des situations difficiles se présentent? Ben, comme tout le monde. Hein, hein, comme tout le monde. Il faut bien vous dire qu'un pasteur n'est surtout pas un surhomme. Hein, ou. Moi, j'ai une pasteur maintenant, alors donc ce n'est pas une super femme non plus. Hein. Mais on a exactement les mêmes craintes, les mêmes failles. Hein. Le pasteur qui se dit irréprochable, eh bien, Ben, je ne ferai pas de commentaires. Voilà. Vous avez compris. Mais on a besoin de se raccrocher à cette parole-là. Alors, Dieu me donne la paix et la sérénité. Ben, Seigneur, je veux rechercher cette paix, cette sérénité. Ben, peut-être dans un tête-à-tête avec Dieu, peut-être aussi en... peut-être dans un, comment dirais-je, dans la lecture de la parole. Je crois que la parole de Dieu est souvent le meilleur moyen également de retrouver cette paix. Alors, quelle stratégie maintenant ? Parce que maintenant, il va falloir se mettre au boulot quand même. Parce que c'est bien joli, Dieu, on compte sur toi, mais qu'est-ce que nous devons faire ? Je pense que si Josaphat s'était dit, bah, Dieu me protège, je m'enferme dans les murailles de Jérusalem et j'attends que les choses se passent, ça ne se serait peut-être pas passé de la même façon qu'elles se sont passées par la suite. Dieu veut que nous soyons partenaires avec lui. Amen. C'est un honneur qu'il nous fait de nous associer à son œuvre. Ce matin, qu'est-ce que je suis ici ? J'apporte la parole de Dieu, mais qui est-ce qui travaille ? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me donne cet honneur de travailler avec lui. Vous imaginez, et vous êtes au bénéfice du Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est quelque chose d'exaltant. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Alors, quelle stratégie ? Dieu combat pour moi. Dieu fait sa part. Demain, vous descendrez contre eux. Ils vont arriver par la montée de Hatsitz et vous les trouverez au bout du vallon, face au désert du Yérouël. Voilà. Déjà, Dieu demande à Josaphat de sortir à leur rencontre. Et maintenant, quelle va être ma part ? J'ai ma part à faire. Ce qui est écrit en noir, c'est ma pensée. Hein. Vous n'aurez pas à combattre. Waouh ! Présentez-vous et tenez-vous là. Vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Si, il y a plusieurs promesses. Vous n'aurez pas à combattre. Soyez sans crainte et sans effroi. Cette promesse est réitérée. Vous sortirez, mais par contre, vous sortirez à leur rencontre. Vous n'aurez pas à combattre. Vous sortirez à leur rencontre. Et ça, l'Éternel sera avec vous. Vous sortirez à leur rencontre. C'est la part que Dieu attend de son peuple. OK ? Est-ce que dans d'autres cas, le peuple d'Israël a dû combattre militairement ? Bah oui, si vous regardez le livre de Josué et la conquête du pays d'Israël, Dieu n'a pas agi de la même façon. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que Dieu n'agit surtout pas de la même façon. Et ne pas croire qu'une réponse de Dieu à un problème sera stéréotypée. La réponse de Dieu sera différente en fonction des cas, en fonction du temps, en fonction de la gravité, en fonction... De sa liberté et de sa souveraineté. Amen. Et là encore, on revient à la louange. Je m'écris loué soit l'Éternel, je suis libéré de mes ennemis. Je m'écris loué soit l'Éternel. Je rappelle que louer le Seigneur, c'est exalter son nom, c'est se rappeler ses bienfaits, rappeler sa toute-puissance, rappeler tout ce qu'il est. Les Lévites et autres fils des Kéatites et dans les fils des Coréites se levèrent pour louer l'Éternel d'une foi forte et bien haut. On leur a dit d'être là. Pour le moment, c'est ce qu'ils font, c'est ils louent le Seigneur. Et la louange n'est pas simplement la louange de remerciement lorsque Dieu agit dans notre vie. Hein. Elle précède la victoire. Je suis peut-être trop long, non ? Allez, on va y aller. Je suis déterminé. Ils se levèrent de bon matin. Oui. Et sortirent vers le désert de Tekoa. C'est impressionnant dans cette période de l'histoire d'Israël combien de fois il est écrit se leva de bon matin. Josué, quand vous relisez le livre de Josué, il s'est écrit plusieurs, peut-être une dizaine de fois, Josué se leva de bon matin. Est-ce que ça veut dire que la qualité du chrétien, c'est fonction de l'heure à laquelle il se lève. Parce que dans ce cas-là, je serais embêté, moi. D'autres aussi, d'ailleurs. Ils se levèrent de bon matin. Moi, je parle de la détermination. On y va, quoi. On y va, on est déterminé. On sort, on marche avec Dieu. On s'est regonflé, on a repris la puissance spirituelle. Et je ne fléchis pas dans ma confiance en Dieu parce que Il a promis le succès. Soyez ferme dans votre confiance, votre Dieu, et vous serez affermi dans votre défense. Soyez ferme dans votre confiance en ses prophètes et vous aurez du succès. Et est-ce que cette confiance, elle est toujours au top niveau ? Et quand vous faites le plein de votre voiture, le réservoir, si vous ne le rechargez pas de temps en temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, le moteur va faire pouf, pouf, pouf. Et que si nous, chrétiens, nous ne rechargeons pas nos batteries spirituelles, notre moteur spirituel, à un moment donné, il va caler. Ce n'est pas parce qu'on a reçu une parole de Dieu, une promesse de Dieu, qu'il faut que nous soyons passifs. Et qu'est-ce que c'est que la recherche? Comment est-ce qu'on recherche nos batteries spirituelles? Ben, je pense que votre pasteur a dû vous le dire souvent. Hein, la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La prière, la méditation. Et puis quelque chose qui me paraît absolument essentiel, hein, c'est la vie d'église. La vie d'église, il y a d'excellentes émissions ou reproductions de cultes sur Internet, hein, mais Internet ne donnera jamais la qualité de la communion fraternelle. Et moi, je vous encourage à être fidèle à votre église comme vous l'êtes. Hein. Alors, là, je pratique la parole de Dieu, je m'écris « Loué soit l'Éternel », puis il tint conseil le peuple, il désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'il sortirait devant l'armée, il disait « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours ». Ça, c'est aussi une promesse de Dieu qu'elle se renouvelle chaque matin et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Là, j'accélère. Hein. Alors, la victoire, elle est extraordinaire. Hein. Mais vous relirez ce texte. Hein. Au moment où commençaient les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les ennemis se sont entretués entre eux. Le peuple hébreu n'a pas eu l'obligation de combattre. Et la victoire, ils se sont simplement occupés de ramasser le butin. Cette menace s'est transformée en bénédiction pour eux parce qu'ils ont ramassé un butin considérable. Et dans la Bible, il y a d'autres cas comme ça où le peuple hébreu n'a pas eu à combattre. Si vous prenez la mer Rouge, c'est pareil. Exode 14:14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Ils se sont tenus devant la mer Rouge. Gédéon, il n'a pas non plus eu à combattre. Il s'est simplement présenté avec ses 300 hommes qu'il avait. Et il a joué, il a joué du corps et il a tapé sur ses cruches pour créer la panique dans le camp ennemi. Après, il a poursuivi. Hein. Lors du siège de Jérusalem en 714, hein, Ézéchias non plus n'a pas combattu. Il y a un esprit qui a ramené le roi Sennachérib chez lui. Hein. Donc, il n'a pas combattu, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, nous ne vivons pas non plus des situations peut-être aussi exceptionnelles que celles que j'ai évoquées, mais je dirais qu'il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël et qui nous garde. C'est une invitation quand même à placer notre confiance dans Dieu dans toutes les circonstances de notre vie, surtout ne jamais décrocher et surtout avoir ce réflexe de nous tourner vers lui. Et puis, il y a quand même aussi le cas qu'on a tous vécu, des prières qui ne sont pas exaucées. Alors, ne sont-elles pas exaucées ou Dieu a une autre réponse à nos prières? Je crois qu'il est important que de nos prières, nous soyons conscients que nos prières ne peuvent se faire que selon sa volonté. Quelquefois, Dieu nous prive peut-être de bénédictions, en tout cas ce qui nous paraît comme des bénédictions, mais qui pourraient être préjudiciables à notre vie par la suite. Peut-être que Dieu n'a pas guéri des êtres chers pour lesquels nous avons prié. La mort est aussi au cœur de la vie. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse à ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a prié inutilement. Ça veut dire simplement qu'on s'est quand même confié en Dieu et que la réponse de Dieu, elle est selon sa volonté, sa souveraineté. C'est le non-exaucement à la prière. C'est le terrain de jeu favori du diable pour nous faire douter. Tu vois, cette petite voix qui distille dans notre intelligence, tu pries, puis tu vois, ça ne sert à rien. Hein? Dieu a-t-il réellement dit? Et je pense qu'on a besoin de résister dans ça parce que la prière du juste est d'une grande efficace. Hein? Et je vous encourage vraiment à ne jamais décrocher dans toutes les situations. Et même si la réponse de Dieu La réponse de Dieu n'est pas ce que vous attendez, parce qu'on n'a pas toujours les victoires éclatantes comme celles que j'ai citées. Mais il y a tout un processus quand même de réponse à la difficulté, au problème. Et surtout, je vous exhorte à une chose, si l'exaucement à la prière, hein, vous rêviez d'une Ferrari rouge, mais cette Ferrari rouge, elle est ruinée complètement vos finances. C'est une confidence du pasteur, ça. Peut-être que Dieu ne permettra pas que vous ayez cette Ferrari rouge. Je prends un exemple un peu stupide, mais il y a peut-être des prières pour lesquelles... Peut-être que vous priez parce que vous soupirez après un jeune homme ou une jeune femme, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Alors, en tout cas, quand vous n'avez pas la réponse que vous attendez à votre prière, c'est vrai dans le cas général, ce n'est pas l'occasion de vous détourner de Dieu. Combien de fois j'ai pas vu des chrétiens se détourner de Dieu parce que Dieu, finalement, j'ai prié, il n'a pas répondu, donc je ne l'intéresse pas, il ne m'intéresse pas, et puis on jette tout par-dessus bord. Soyez fidèles, parce que Dieu, de toute façon, il est souverain, et il agit toujours selon sa volonté. Mais n'oubliez jamais que Dieu est amour, et qu'il a pour vous un amour indéniable, et que peut-être qu'il n'a pas répondu à la prière de la façon à laquelle vous attendiez, mais il a d'autres réponses pour vous. Projet de paix et non de malheur, disait Jérémie, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen.